Le journal, présenté par Marion Chantreau.
Bonjour à tous. La coalition internationale contre le groupe État islamique menée par les États-Unis envoie en Syrie plusieurs avions pour protéger ses forces spéciales, des forces qui conseillent les Kurdes dans la lutte contre les djihadistes. Depuis deux jours, ils sont visés par des bombardements de la part du régime à Asaké, une ville jusqu'alors co-administrée par le régime syrien et les Kurdes. En cinq ans de guerre, jamais les Kurdes n'avaient ainsi été pris pour cible par les troupes de Bachar al-Assad. Un changement d'attitude brutal de la part de Damas, nous explique Claude Guibal.
Lorsque les premiers troubles éclatent en Syrie en 2011, la minorité kurde, 15% de la population, reste en relatif retrait. Certes, il y a évidemment des Kurdes parmi les manifestants qui réclament le départ de Bachar al-Assad, mais dans les provinces kurdes, plus généralement, on se contente d'observer prudemment ce conflit qui très vite se confessionnalise, s'ethnicise et bascule dans la violence. Derrière cette attitude, certains leur reprochent une stratégie, attendre de voir comment le vent tourne pour faire comme les Kurdes d'Irak, qui à l'issue de la guerre en Irak quelques années plus tôt, ont réussi à obtenir leur autonomie. Le tournant marqué par la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique change la donne. Ce sont les Kurdes qui, au sol, luttent contre les djihadistes. Ils sont ainsi les plus précieux alliés de la coalition internationale. Ils libèrent des villes comme Manbij la semaine dernière et caressent donc l'espoir de faire la jonction entre ces territoires pour créer une zone kurde. Mais à Asaké, ville mixte qu'ils contrôlaient en paix jusqu'alors avec les forces du régime, la situation s'est brutalement dégradée avec des affrontements. En les bombardant aujourd'hui, Damas cherche probablement à marquer sa souveraineté et limiter les ambitions des Kurdes, plus que jamais déterminant dans l'issue de ce conflit.
Aux États-Unis, le directeur de campagne de Donald Trump a démissionné hier, deux jours après le remaniement de l'équipe du candidat républicain. Paul Manafort est en désaccord avec la ligne Trump. Il est aussi au cœur d'une enquête pour corruption impliquant l'ancien président ukrainien. Les précisions depuis New York de Charlotte Alix.
Plusieurs raisons expliquent cette démission. D'abord, les divergences de plus en plus profondes sur la stratégie à adopter. Paul Manafort avait été promu au printemps pour aider Donald Trump, le néophyte, à professionnaliser sa campagne. Dans son cahier des charges, adoucir l'image du candidat pour étendre sa base électorale et tendre la main à l'establishment républicain. C'était sans compter sur la réticence de Trump à opérer un tel changement. De provocation en dérapage, le milliardaire a bien fait comprendre, jusqu'à le dire clairement, qu'il entend définir cette campagne à sa manière. Paul Manafort n'avait donc plus sa place. Mais le passé sulfureux du stratège commençait également à gêner. Dimanche, le New York Times avait révélé sa possible implication dans un vaste scandale de corruption en Ukraine, où on le soupçonne d'avoir touché des millions de dollars en liquide lorsqu'il était consultant pour le parti pro-russe de l'ex-président Yanukovych. Une polémique qui a fini de sceller le divorce à l'amiable, assurent les protagonistes.
Aux États-Unis, les feux de forêt reprennent avec la sécheresse en Californie. Des milliers de pompiers luttent en ce moment contre une trentaine de brasiers géants. Des dizaines d'hectares sont partis en fumée dans plusieurs États. La Russie lance des manœuvres militaires en Crimée. Hier, Vladimir Poutine a tenu un conseil de sécurité dans la péninsule ukrainienne, annexée il y a deux ans. Le président russe accuse l'Ukraine de vouloir déstabiliser la presqu'île, mais dit vouloir maintenir les contacts avec le pays pour calmer les tensions. La correspondance en Ukraine de Sébastien Gobert.
Il semble clair que nos partenaires à Kiev ont choisi une escalade de la situation. Nous y sommes habitués. Nous espérons que le bon sens l'emportera. À écouter Vladimir Poutine, la Russie ne serait pour rien dans le nouvel épisode des tensions avec l'Ukraine. Et pourtant, il y a une semaine, le président russe accusait Kiev de tentative d'attaque terroriste en Crimée. Une tentative encore non prouvée, mais qui ne devait pas rester sans conséquences, selon le chef du Kremlin. Sa visite sur la péninsule intervient alors que plus de 2500 soldats et 350 véhicules militaires ont entamé des exercices de grande ampleur. Ils visent entre autres à simuler des débarquements de matériel amphibie et à contrer des actes de sabotage. Côté ukrainien, le président Petro Poroshenko a averti une nouvelle fois d'un risque d'invasion à grande échelle. Ses troupes sont en état d'alerte maximale au nord de la Crimée. Elles sont aussi mobilisées dans l'est de l'Ukraine qui subit une explosion de violences meurtrières depuis des semaines. L'armée ukrainienne prépare aussi la parade du 24 août à Kiev pour célébrer les 25 ans d'indépendance nationale. Vladimir Poutine dépeint ainsi l'Ukraine comme va-t-en-guerre et serait tenté d'obtenir une renégociation des accords de paix de Minsk en faveur des séparatistes qu'il soutient depuis 2014. Soit un jeu tactique de discours et de symboles dont beaucoup redoutent qu'il dégénère à n'importe quel moment.
En France, une alerte enlèvement a été déclenchée hier soir pour retrouver un garçon de 9 ans enlevé par son père dans la nuit de jeudi à vendredi à Romenay en Saône-et-Loire, selon les gendarmes. Nathaël a les cheveux clairs, les yeux noisettes, vêtu d'un bas de pyjama, d'un tricot. Il est monté dans une Citroën Xantia verte au numéro d'immatriculation 6696YB71. Si vous localisez l'enfant, appelez le 0800 36 32 68. La pression des migrants grandit à Calais, dans la jungle, ce camp où désormais 6900 migrants vivent sous des tentes. Un recensement effectué par la préfecture du Pas-de-Calais. En juin dernier, il n'était que 4500. Les associations décrivent l'arrivée d'un flot de réfugiés à qui l'on donne des tentes, mais qui n'ont pas la place de les installer. Maya Confortier est responsable de l'association Auberge des Migrants.
On a eu ces derniers mois une augmentation d'à peu près 1000 personnes par jour depuis la fin du mois de mai, mai-juin. Ça sont des augmentations qui sont normales par rapport au cours des choses de ces derniers temps. On sait qu'il y a plus de gens qui viennent pendant l'été à cause de la traversée de la Méditerranée qui est plus facile. En plus de ça, il y a eu une offre de la préfecture, un espèce d'encouragement à ce que les gens de Calais demandent l'asile avec la création des centres d'accueil. D'accueil et d'orientation. On a même maintenant des gens qui viennent de Paris, parce que les choses qui se passent à Paris sont absolument catastrophiques. Il y a eu 8 évacuations sans relogement en 13 jours. Une partie de ces gens vient à Calais parce qu'ils savent que, au moins là, ils vont avoir une tente et ils vont pouvoir y rester un petit peu. Et puis s'ils veulent demander l'asile, ils pourront partir en CAO.
Et depuis novembre dernier, près de 5400 migrants ont quitté le camp pour des CAO, des centres d'accueil et d'orientation répartis partout en France. La météo aujourd'hui, de la pluie du sud-ouest à la Bourgogne et sur l'Alsace cet après-midi. Des nuages sur les côtes de la Manche et dans le sud-est, les températures, ça se rafraîchit. 19 à Clermont-Ferrand, 21 à La Rochelle, 23 à Bordeaux, 24 à Paris et 26 à Nice. Merci.